Я хотел бы поблагодарить уважаемого моего американского коллегу.
Je voudrais remercier notre collègue américain des commentaires qu'il a fait. Nous allons en tenir compte dans notre travail et nous sommes prêts à présenter nos commentaires à propos de l'activité de la Fédération de Russie dans l'espace et le test qui a été fait en novembre dernier, le test auquel nous avons procédé. Je voudrais faire remarquer quand même que notre test n'a absolument rien d'extraordinaire. Il y a eu des tests similaires qui ont été faits dans les années 90 par les États-Unis d'Amérique, tant pour l'utilisation des moyens cinétiques de frappe des satellites que pour l'utilisation de moyens et de systèmes sur la base des autres principes de la physique, par exemple en utilisant les systèmes laser. Par ailleurs, les États-Unis disposent depuis longtemps d'un potentiel anti-satellite basé sur Terre. Et ces capacités, elles, comprennent des missiles d'interception des systèmes mondiaux de la défense antimissile. Ce sont des capacités qui ont été manifestées en novembre 2008 par les États-Unis lorsque les États-Unis, avec un missile d'interception, ont anéanti, détruit leur propre satellite qui a commencé à sortir de son orbite et à tomber sans contrôle. Pour ce qui concerne les objectifs, les buts pour lesquels sont élaborés les systèmes anti-satellites et les capacités anti-satellites, eh bien, ils peuvent être de nature différente. Ils peuvent être pacifiques. Par exemple, la seule façon de prévenir une collision avec d'un satellite qui a perdu le contrôle et qui est sorti de son orbite avec d'autres satellites, ou bien sa chute sur des éléments d'infrastructure très importantes situés à la surface de la Terre, ça ne peut être que de le détruire. Par ailleurs, il y a beaucoup de pays, notamment européens, qui envisagent la possibilité d'élaborer, de développer ce genre de capacité pour se protéger contre des chutes de gros météorites sur le sol de la Terre. Encore une fois, la protection contre de telles chutes de météorites, comme celui qui est tombé sur Tcheliabinsk, ce n'est pas possible sans disposer de ce genre de capacité. J'ajoute que pour ce qui concerne les autres buts qui sont visés par ce genre de capacité, j'attire encore une fois votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de délégations des pays occidentaux qui font une propagande active autour de la nature double usage des technologies spatiales et autour de l'utilisation des objets et appareils spatiaux comme armes. C'est un sujet que nous avons prévenu dans nos interventions et de façon bilatérale, nous avons prévenu nos collègues que c'était un sujet assez dangereux, risqué, parce qu'encore une fois, je voudrais dire qu'une telle approche vis-à-vis de la spécialisation des appareils spatiaux c'est, je le répète une nouvelle fois, c'est une invitation à développer, à concevoir un contre-potentiel ou des contre-capacités. Et là, encore une fois, je voudrais m'inscrire en faux avec ce que disent les collègues sur le fait qu'il n'est pas possible d'établir une distinction claire entre l'aspect civil, les fonctions civiles et les fonctions militaires d'un objet spatial. D'abord, on peut tout à fait le faire en perfectionnant les dispositions de la Convention sur l'immatriculation des objets spatiaux. La Fédération de Russie, en son temps, avait proposé, et c'est une proposition qui reste sur la table, avait proposé des principes directeurs sur le sujet. Dans le cadre du groupe de travail du comité COPOS, du comité des Nations Unies sur l'espace. Par ailleurs, on peut s'inspirer de l'expérience acquise dans le domaine du nucléaire. Ce n'est un secret pour personne et personne n'objectera sur le fait que ces technologies nucléaires, elles ont un double usage, elles sont à double destination. Cependant, la communauté internationale a trouvé des solutions qui permettent de déterminer de façon assez précise ou de distinguer de façon assez précise les technologies, enfin le nucléaire civil, les sites nucléaires civils et les civils, les sites et les technologies nucléaires militaires. Pourquoi ne pas réfléchir également en ce sens ici? Et une dernière chose, en ce qui concerne le potentiel anti-satellite, j'attire votre attention sur le fait que la Fédération de Russie a été à l'initiative du traité
PPWT.
PPWT. Et le point 2 de l'article 2, donc l'article 2.2 de ce traité, stipule très clairement que la Russie propose d'assumer l'obligation de ne pas avoir recours à la force et de ne pas menacer d'avoir recours à la force contre des objets spatiaux. En conséquence, cette obligation étant entendu, enfin, entendant l'espace comme un environnement sans conflit, l'absence d'armes dans l'espace constitue un obstacle au développement et au perfectionnement et à l'accumulation de capacités anti-satellites. Je vais m'interrompre à ce stade dans mes commentaires ou dans ma réponse aux commentaires de notre collègue des États-Unis. Évidemment, nous aurons d'autres commentaires à faire également sur les questions qu'il a posées ainsi que sur les questions posées par les autres délégations au cours des débats. Merci.